C'est un privilège pour moi d'être au milieu de vous. Votre pasteur était à Ville-la-Grand il y a quelques semaines. Alors voilà, en retour, je suis parmi vous ce matin. Notre fille, Alizée, est aide de cuisine dans le camp que dirige Jonathan. Apparemment, il y a du boulot. Et notre fils, lui, est campeur. Donc on est très content d'en avoir deux qui sont à Eisenflou, sous la garde de votre bien-aimé pasteur. Ça se passe très bien apparemment. Enfin, je pense que vous le suivez sur Eisenflou. Journellement, que vous regardez toutes les belles photos de ce camp. Et en plus, bon, je crois que le temps est pas mal. Il y a eu quelques pluies, mais voilà, ça rafraîchit un peu. Merci beaucoup. Merci, c'est sympa. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Esther, au chapitre 2, et nous allons lire les 20 premiers versets. J'ai commencé une série à Ville-la-Grand sur ce magnifique livre historique, et nous allons considérer ensemble quelques personnages de cette histoire d'Esther. Donc Esther, chapitre 2, à partir du premier verset. Après ces événements, la fureur du roi Assuérus s'apaisa. Il se souvint de Vasti, de ce qu'elle avait fait et de la décision qui avait été prise à son sujet. Les jeunes gens qui servaient le roi dirent qu'on recherche pour le roi de jeunes vierges d'une grande beauté. Que le roi donne à des chargés de mission dans toutes les provinces de son royaume la charge de rassembler tout ce qu'il y a comme jeunes et belles vierges dans le harem de Suse, la capitale, aux soins de Hege, eunuque du roi et gardien des femmes, et qu'on leur donne des cosmétiques. La jeune fille qui plaira au roi régnera à la place de Vasti. Cette proposition plut au roi et ainsi fut fait. Il y avait à Suse, la capitale, un juif du nom de Mardoché, fils de Yaïr, fils de Shimei, fils de Kish, benjaminite. Il avait été déporté de Jérusalem avec ceux des déportés qui avaient été emmenés avec Yéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Or, il était le tuteur de Hadassa, c'est-à-dire Esther, fille de son oncle. Elle n'avait plus, en effet, ni père ni mère, et cette jeune fille était d'une très grande beauté. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée. Lorsqu'on eut publié l'ordre et l'édit du roi, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, aux soins de Hegai. On amena ainsi Esther dans le palais royal, aux soins de Hegai, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et gagna sa bienveillance. Il lui donna, avec empressement, les cosmétiques et les rations qui lui revenaient, ainsi que les 7 jeunes servantes de la maison royale qu'on avait prévu de lui donner, et il la fit passer avec ses jeunes servantes, à la meilleure place du harem. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni son origine, car Mardoché lui avait défendu de les faire connaître. Chaque jour, Mardoché arpentait les abords du harem pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Le tour de chacune des jeunes filles d'aller chez le roi Assuérus arrivait, au bout de 12 mois, qui lui étaient assignés suivant le protocole des femmes, car la période de leurs apprêts était ainsi remplie, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des cosmétiques de femmes. Lorsque la jeune fille allait chez le roi, tout ce qu'elle demandait lui était donné pour qu'elle l'emporte avec elle du harem au palais royal. Le soir, elle y allait. Le matin, elle rentrait dans un second harem aux soins de Shashgaz, eunuque du roi, gardien des concubines. Elle ne revenait plus chez le roi, à moins que le roi n'ait envie d'elle et ne l'appelle par son nom. Quand son tour d'aller chez le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishaïl ou Abihaïl, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée, ne réclama rien de plus que ce qui lui était proposé par Hegai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther était considérée avec faveur par tout le monde. On vint prendre Esther pour l'emmener chez le roi Assuérus, au palais royal, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle gagna sa faveur et sa bienveillance plus que toutes les autres vierges. Alors, il mit sur sa tête la couronne royale et la fit régner à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et ses serviteurs, le festin d'Esther. Il ordonna une trêve avec les provinces, dans les provinces, et fit des largesses avec une libéralité royale. Quand on assembla les vierges pour la seconde fois, Mardochée avait une place à la conciergerie royale. Esther ne faisait toujours pas connaître son origine, ni son peuple, comme le lui avait ordonné Mardochée. Esther exécutait les ordres de Mardochée comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. Voilà donc le texte de la parole de Dieu ce matin, que Dieu bénisse sa parole. Je me rappelle de cette histoire d'Esther, dans le sens que la première fois que je suis arrivé ici à Genève, venu à Genève, c'est il y a bien bien longtemps, je devais avoir 9 ans je pense, pour faire un camp au Roc, un camp d'enfants, avec Samuel et Hélène Grandjean. Et bien c'était l'histoire d'Esther, et ça m'avait... c'est une histoire extraordinaire, romantique, etc. Et c'est vrai que Samuel et Hélène Grandjean racontaient ça de façon exceptionnelle. Et voilà, j'ai gardé à l'esprit, à la mémoire, ces images sur le flanellographe, et ces histoires du soir ou du matin, etc. Donc une très très belle histoire, que je vous invite à considérer courtement ce matin, en tout cas une partie de cette histoire. Disons quelques mots rapides sur le premier chapitre. Je suppose que vous avez tous lu ou entendu parler de ce livre, et vous vous rappelez que dans ce chapitre 1, il est question d'un festin, d'un banquet, d'une fête qui dure approximativement 6 mois. 6 mois de fête organisée par l'empereur de l'époque, l'homme le plus puissant, le Trump de l'époque, c'est-à-dire Assuérus, qui est un titre certainement, très probablement l'empereur Artaxerxès. 6 mois de fête au cours de laquelle il invite les grands de l'Empire à se joindre à lui et à admirer semaine après semaine. Alors, ils ne viennent pas tous d'un coup, très certainement les uns après les autres, et ils admirent la puissance, la richesse, la majesté, la souveraineté de cet empereur. Le peuple participe, mais c'est beaucoup plus court, peut-être une semaine. Quelle est la raison de ce festin ? Très probablement, une guerre. Il prépare une guerre contre les Grecs, j'en dirai quelques mots dans une ou deux minutes, et il désire unifier les grands de l'Empire autour de lui pour partir en guerre contre les Grecs. Il n'y a rien de mieux finalement que d'organiser un tel banquet, une telle fête pour montrer la puissance et dire donc à tous ces hommes qui sont censés être sous sa domination, sous sa souveraineté, écoutez les gars, partons ensemble et allons conquérir la Grèce. Et au cours de cette fête, il avinait certainement, comme la plupart de ses convives, et il désire que la reine Vasti, qui était la plus belle des femmes de l'époque, en tout cas dit-on, danse devant eux et probablement nue. C'est une femme de caractère, elle refuse, c'est un affront à l'empereur et elle est traitée en fonction de l'affront. Elle sera donc répudiée pour un temps, elle reviendra. Il faut savoir qu'elle était certainement une des femmes les plus belles, mais aussi une des femmes les plus cruelles de son époque. Ce qu'on découvre en fait dans ce chapitre 1, c'est que tout aussi impressionnant et séduisant que soit l'empire d'Artaxerxès, c'est en réalité, à beaucoup d'égards, le monde des faux-semblants, de la perversion, de l'injustice. Et c'est un empire qui est lézardé jusqu'aux plus hauts échelons de la hiérarchie, puisque le roi, l'empereur, fait preuve, on le découvre dans ce premier chapitre, d'un caractère indécis, autoritaire, emporté, versatile. Quant à la reine dont je viens de parler, c'est une femme insoumise. On peut comprendre, quelque part, qu'elle ne se soumette pas au désir de cet homme. Mais quoi qu'il en soit, hypocrisie, insoumission. Hypocrisie, c'est plutôt par rapport aux conseillers du roi, qui réagissent avec crainte et peur à l'égard du roi. Enfin, voilà, c'est un monde de faux-semblants. Ce qui est très intéressant, et nous y reviendrons au cours de cette prédication, c'est que dans ce livre d'Esther, et vous le savez très certainement, le nom de Dieu n'est jamais mentionné, on y voit pourtant Dieu comme maître des circonstances. Il est maître des circonstances d'un monde qui vit sans lui. Il accomplit imperturbablement sa volonté. Et il permet à ceux qui lui appartiennent de ne pas se soumettre servilement au mode de vie de l'époque, mais au contraire, de vivre pleinement et pour sa gloire leur foi. Il est là, il dirige et il prend particulièrement soin des siens au sein de circonstances très compliquées, puisque c'est un monde qui vit sans Dieu. Et ce chapitre 2, que nous venons de lire en partie, se déroule quelques 3 années plus tard, ce chapitre 1 dont je vous ai parlé. Que s'est-il passé entre-temps ? Eh bien, entre-temps, il y a eu la guerre. Et entre-temps, il y a eu une énorme défaite d'Artaxerxès contre les Grecs. 2 défaites, plus précisément, celle de Salamine et celle des Thermopyles, une bataille navale et une bataille sur terre. Et les 2 fois, les Grecs ont été vainqueurs. Et le roi ou l'empereur est retourné chez lui, en Perse. Il est certainement exténué, découragé par l'humiliation subie de la part de ces quelques Grecs. Et à ce moment-là, il ressent très probablement l'absence de sa reine, Vasti, et il aspire à une compagnie féminine. Vous me direz, il devait y en avoir, puisqu'il avait des harems. Mais il aspire à avoir une femme particulièrement à ses côtés. Et il regrette à ce moment-là, nous dit l'auteur, probablement Mardochée, il regrette la décision qu'il a prise à l'égard de la reine Vasti, c'est-à-dire de l'avoir répudiée quelques années plus tôt. Et voilà pourquoi ses conseillers, qui ne peuvent pas rappeler cette reine répudiée, eh bien, cherchent à apaiser le manque de l'empereur en lui mettant à disposition ou en lui trouvant la plus belle des jeunes femmes de l'Empire. Et c'est ainsi donc qu'ils vont suggérer que toutes les belles femmes ou belles jeunes femmes du royaume soient réunies afin qu'il en choisisse lui une pour lui. Et d'après l'historien Hérodote, ce sont quelque 400 jeunes femmes qui vont ainsi être arrachées à leur famille. Alors 400, ça peut paraître beaucoup, et en fait, dans un empire aussi grand que celui d'Artaxerxès, c'est peu. Ça veut dire qu'elles avaient été triées sur le volet. 400 jeunes femmes qui vont être arrachées à leur famille pour le bon plaisir du roi. Et les conseillers, bien entendu, ne se préoccupent pas un instant des conséquences humaines que ce choix de l'empire, du gouvernement, peut avoir sur leur vie, sur la vie de leur famille et peut-être même sur la vie de leurs prétendants, parce que si elles faisaient partie de ces 4, si elles étaient si belles et extraordinaires, elles avaient très certainement des prétendants, mais on a cure à ce moment-là de savoir si elles étaient d'accord ou pas, ou la famille, ou peut-être leur fiancé. Il faut savoir aussi que selon l'usage de l'époque, une fois que la reine avait été choisie, et ça ressort du texte que nous avons lu, une fois que la reine avait été choisie, les autres prétendantes ne retournaient pas chez elles. Elles ne rentraient pas, elles ne prenaient pas le train pour rentrer et pour se jeter dans les bras de leur fiancé ému qui attendait en se demandant bien si elle deviendrait reine ou si elle reviendrait. Non, une fois que le choix avait été fait, les autres étaient mises dans un harem et elles y restaient tout le long de leur vie, pour parfois peut-être être demandées par l'empereur. Elles étaient donc cloîtrées. Regardez encore ceci au verset 3, le choix ou les critères qui présidaient au choix des jeunes femmes. Il fallait qu'elles soient belles et vierges. Et ça se limite, selon Mardochée, si Mardochée en est l'auteur, cela se limite donc, voilà les critères de choix limitatifs pour ces jeunes femmes. Et mes amis, si je le souligne, c'est parce que ces critères utilisés à l'époque nous montre l'état d'esprit qui régnait à ce moment-là dans cet empire. La superficialité et la légèreté, non seulement de l'empereur, mais de l'ambiance générale. L'important, c'était le paraître, c'était la sensualité, le culte du corps, de la beauté. L'image, déjà à cette époque-là, prédominait au détriment de la connaissance, de l'intelligence, de la sagesse, du discernement, de la profondeur, de la spiritualité. Et si je le souligne, c'est parce qu'il y a un lien certainement entre l'empire d'Artaxerxès et celui qui est le nôtre, et pardonnez-moi si je pense à empire, mais le monde qui est quelque part le nôtre aujourd'hui. Alors évidemment, ce n'est pas que la beauté n'a pas de place, Mais comme vous le savez, la beauté est relative. Et on s'en rend compte en vieillissant, et je fais partie de ceci. De plus, les critères de beauté varient. Les critères de beauté ne sont pas les mêmes en Occident qu'en Asie ou ailleurs dans le monde. Et on le voit bien par les tableaux de la Renaissance, par exemple, que les critères de beauté pour une femme, qui étaient plus souvent peintes que les hommes, en tout cas pour leur beauté, n'étaient pas les mêmes que pour les femmes d'aujourd'hui. Et même les 30 dernières années nous montrent que les critères ont changé. Donc tout est relatif. La parole de Dieu nous dit que la grâce est vaine et la beauté trompeuse. Mes amis, je reviens sur cet état d'esprit, sur cet esprit qui était là, cet esprit de superficialité, de légèreté, de sensualité, d'apparence, pour nous mettre en garde en tant que chrétiens, parce qu'il y a une porosité évidente entre le monde dans lequel nous vivons et l'Église, pour nous mettre en garde contre cette tendance-là, aujourd'hui encore. Et permettez-moi de citer à cet égard un journaliste, dont je n'ai pas noté le nom, et je vous prie de m'en excuser, mais qui dit en tout cas ceci. Il est certain que le culte de l'intime, l'exaltation du sentiment de soi, la scénarisation de la vie, de sa vie, la volonté consciente ou non de faire de son existence une histoire, semble bien n'avoir jamais été autant poussé à l'extrême. Et si les technologies mobiles, le web, les réseaux sociaux ont permis de faire éclater le cercle étroit des cellules traditionnelles, la famille, le village, la nation, la liberté a un prix, et c'est peut-être celui d'une nouvelle forme de solitude et d'enfermement. Ainsi, dans nos pays développés, le besoin d'estime et de reconnaissance, autrement dit le besoin d'être regardé, admiré, aimé, semble plus essentiel que jamais. Et je pense, j'imagine que chacun de nous ne peut qu'abonder dans le sens de ce que dit cet auteur. Et ce qui me parle dans ces quelques lignes, les quelques lignes de ce journaliste, c'est la notion de solitude et d'enfermement, dans lesquelles nous sommes jetés aujourd'hui dans ce culte de superficialité, de légèreté, de sensualité, etc., où l'on scénarise notre vie. Je viens de faire un camp avec des jeunes dans le Var, avec la JAP France, et on a discuté à un moment donné d'Internet, des réseaux sociaux, on a passé toute une soirée à discuter, et ils reconnaissaient que c'était réellement ce qu'ils vivaient, la tendance dans laquelle ils allaient. Et vous savez, ce qui est très intéressant, en fait, ils reconnaissaient cela, et quelque part, ils en souffraient, ils ouvraient les yeux par rapport à cela. Ils désiraient y réfléchir en tant que jeunes chrétiens, puisque la plupart l'étaient. Mais ce qui était très intéressant, on a passé une dizaine de jours ensemble, on s'est baladé dans le Var, on a fait de la montagne, on a fait du canoë, on a même fait des radeaux, enfin on a essayé du moins. Ce qui était très intéressant, c'était de voir combien ces jeunes, lorsqu'ils mettent de côté leur téléphone, leurs ordinateurs, etc., et les responsables dont je faisais partie aussi d'ailleurs, réapprennent des relations naturelles. Simple. On a vu des gars de 17-18 ans qui pourraient être déjà militaires, je parle de ça en tant qu'ancien militaire ou en tout cas travailler, prendre des cailloux et s'amuser à faire des ricochets dans l'eau. Et ils étaient vachement contents de faire des ricochets dans l'eau pendant des heures au bord d'un lac. Alors imaginez pourtant, si je propose à mon fils, le dernier qui est devant son ordinateur à jouer, s'il veut aller faire des ricochets avec moi dans l'eau sur le lac Léman, il va me regarder avec un air, enfin je ne sais pas quel air, mais il va se demander si je suis devenu fou. Et pourtant, on a découvert, on a vu de façon assez évidente combien les relations changeaient, les intérêts étaient divers, variés, différents. Et voilà, donc tout ça pour dire, tout pour parler de l'impact malheureusement de cet esprit qui est sur notre monde aujourd'hui. Alors, ce que j'aimerais voir avec vous ce matin, plus précisément dans ce chapitre 2, ce sont deux personnages qui ne correspondent absolument pas, justement, à l'esprit, ou qui ne se soumettent pas, ne sont pas asservis à l'esprit de cette époque-là, du monde de cette époque, et de notre monde d'aujourd'hui. Il s'agit de Mardochée et d'Esther. Ils sont, en quelque sorte, l'antitype de ce que l'on vient de voir. la qualité de ce qu'ils sont en tant que personnes est à l'opposé d'un roi sensuel, superficiel et d'une femme colérique et insoumise. Alors, considérons ensemble ce matin Mardochée, un homme selon Dieu, Esther, une femme selon Dieu, et enfin nous dirons quelques mots sur l'œuvre providentielle de Dieu, parce que c'est finalement ce qu'il y a de plus important dans ce texte et dans ce livre. Mardochée, tout d'abord, un homme selon Dieu. Alors, il est très intéressant, lorsqu'on lit ce chapitre 2, de découvrir qu'à contrario de l'empereur qui n'est finalement que très courtement présenté au chapitre 1, on dit très peu d'Artaxerxès, à contrario, les origines de Mardochée sont précises. Alors, très certainement parce que c'est lui l'auteur, mais il y a une autre raison pour cela. On lit au verset 6, on parle au verset 6 de trois ancêtres de Mardochée. Et au verset 5. Et on estime, à propos de la référence qui est faite à Kish, au verset 5, comme aïeul de Mardochée, que cette allusion est là pour nous apprendre qu'il est un descendant du roi Saül. Donc le Mardochée dont il est question est descendant du premier roi d'Israël, celui qui, comme vous le savez, a précédé David. Alors pourquoi est-ce que cette information est importante? Elle est très importante parce que, quelques temps plus tard, au chapitre 3, on apprend que Aman, le vizir, le premier ministre, est quant à lui le descendant du roi Agag. Alors, vous me direz, est-ce que c'est juste pour des questions, des histoires de famille, de seigneurs, de princes, de rois? Non. Cela est très important parce que on sait que Agag, le grand-père de Aman, était le roi du peuple Amalek et que ce peuple a été détruit par Saül. Et il y a donc, si vous voulez, dans l'histoire d'Esther que nous lisons, dans ces quelques chapitres du livre d'Esther, une opposition entre deux descendants, entre Mardochée, des descendants de Saül qui a détruit les Amalécites, et Aman, le descendant d'Agag. Et ça nous permet de comprendre pourquoi Mardochée, à un moment donné, refuse de plier le genou devant Aman. Parce que Aman est descendant de Agag, est un Amalécite, un ennemi d'Israël. Non seulement cela, mais aussi évidemment par soumission à Dieu. Nous découvrons, dans ce chapitre 2, nous découvrons également au verset 11 et au verset 21, que Mardochée avait une responsabilité au palais royal, au palais de l'empereur. Alors certains pensent qu'il était officier, d'autres pensent qu'il était eunuque. En tout cas, nous découvrons dans ce chapitre 2 que Mardochée peut se déplacer au sein du palais. Il peut même aller jusqu'à très près du harem. Mais ce qui impressionne le plus lorsque l'on découvre Mardochée dans ce chapitre et tout au long de ce livre, et déjà dans ce chapitre donc, c'est sa noblesse de caractère. Et c'est ce sur quoi j'aimerais venir maintenant. Les qualités humaines qu'il démontre et qui s'expriment en particulier à l'égard de sa nièce, de sa cousine, pardonnez-moi, Esther. Nous découvrons un homme aimant, un homme fidèle, un homme sage et un homme courageux. Et chers frères et sœurs, avant de considérer rapidement ces quelques vertus, qualités de Mardochée, ce matin, au réveil, lorsque j'ai pensé à cette prédication, je me suis dit, mais je vais parler de Mardochée, un homme, comme vous et moi, comme vous messieurs, un homme comme moi, c'est-à-dire de la même nature. Mais en considérant les qualités de cet homme, je me suis dit, je dois être honnête. Je désire fortement ressembler à Mardochée, mais malheureusement, je ne ressemble pas à beaucoup d'égards à Mardochée. Et que Dieu me fasse grâce, et que Dieu nous fasse grâce. Un homme aimant. Cet amour paraît évident lorsque nous lisons le soin qu'il prend de sa cousine Esther. Comment ? En l'adoptant dès la mort de ses parents. verset 7. Et mes amis, cet amour, de quelle nature est-il? C'est un amour sacrificiel. C'est un amour qui se donne. Ils sont de la même famille, les liens de famille sont étroits, ils sont déportés, mais il se sacrifie, offre sa vie pour la fille de son oncle. Et nous le découvrons tout au long de ce chapitre. Il prend régulièrement des nouvelles d'Esther pour savoir comment on prend soin d'elle au sein du harem. Un homme qui s'offre, qui se donne, qui renonce à lui-même. Pour résumer, très courtement, un homme qui n'est pas égoïste. Ce qui est apparemment, eu égard à la nature de l'homme, quelque chose d'extraordinaire. Un homme fidèle. La fidélité découle nécessairement d'un amour sacrificiel, d'un amour qui s'offre, d'un amour qui prend soin. Mardoché est fidèle à la parole donnée, est fidèle à l'égard de sa famille, est fidèle à l'égard de son oncle en particulier. Comment? En prenant soin de cette jeune femme après sa mort. Un homme qui respecte ses engagements. Un homme sage. La sagesse, selon la parole de Dieu, c'est savoir prendre la bonne décision en fonction de la situation. C'est-à-dire comprendre la situation selon Dieu. Et une fois que l'on a compris cette situation selon Dieu, déterminer les meilleurs moyens de la résoudre ou de comment agir dans cette situation. Et il comprend les choses selon Dieu et il sait dès lors ce qu'il convient de faire. Et il conseille avec sagesse sa cousine. Et c'est ainsi qu'il lui dit, en particulier, de ne rien dire sur ses origines. Et cela sera particulièrement précieux et important pour Esther dans le rôle qu'elle va jouer pour protéger son peuple. En étant sage, en donnant les bons conseils, on peut dire que Mardoché met par avance en pratique cette injonction du Seigneur Jésus à ses disciples lorsqu'il leur dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Et enfin, un homme courageux. C'est déjà courageux de donner sa vie, de s'offrir, de sacrifier son temps, peut-être sa place, sa profession, peut-être ses loisirs. Mais c'est en particulier courageux de la part de Mardoché de prendre ainsi soin de cette jeune femme et de se présenter régulièrement devant la maison des femmes, au prix peut-être de sa vie. Un courage dans le don de soi, un courage qui est manifesté par cet amour, cette fidélité à Esther. Mardoché brave le danger. Combien de fois il échappa à la mort, cela ne nous est pas dit, mais il était particulièrement dangereux pour un homme d'aller s'aventurer proche de la maison des femmes du harem de l'empereur. Que découvrons-nous donc, très brièvement, dans les qualités et les vertus de Mardoché, dans l'amour indéfectible de Mardoché à l'égard d'Esther, dans sa fidélité à elle, à son oncle, dans cette sagesse dont il fait preuve, dans le courage qui est le sien, eh bien nous apprenons, et là je vous parle messieurs, et évidemment je vous l'ai dit, je me parle à moi en premier lieu, eh bien Mardoché est un modèle de vigilance, de soin qui devrait caractériser tous les hommes. Qui devrait en particulier caractériser les maris, qui devrait caractériser les pères, qui devrait caractériser tous ceux qui sont appelés en autorité à l'égard des âmes que Dieu a placées sous leur responsabilité. Et que Dieu nous fasse grâce. Mes amis, c'est par de sages conseils, par une présence réelle, discrète, mais réelle, et surtout dans un monde où la masculinité est totalement remise en question, c'est-à-dire donc dans le fait d'assumer ses responsabilités d'homme, par une fidélité dans la prière, dans son intimité avec Dieu, dans la prière pour les siens, par beaucoup de courage, qui consiste à confronter l'adversité, qu'à l'instar de Mardoché, le cousin d'Esther, les hommes doivent protéger, défendre, préserver, guider, aimer, dans le sens sacrificiel, ceux dont ils ont la responsabilité. Et c'est cela, vivre dans un monde corrompu, comme celui qui existait à l'époque d'Artaxerxès, et cela peut coûter des critiques, beaucoup d'incompréhension. Vivre comme un homme, chrétiennement comme un homme aujourd'hui, est quelque chose de difficile. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Que Dieu, je le répète, nous fasse grâce. Esther, une femme selon Dieu. Nous apprenons au verset 7 qu'elle s'appelait, son nom hébreu était Hadassa. Mais elle a un prénom perse, c'est celui d'Esther, qui en langue persane signifie « étoile ». Alors il était tout à fait possible qu'elle ait été ainsi appelée en faisant référence à la déesse babylonienne de l'amour, Ishtar. Pourquoi ? Peut-être du fait de sa grande beauté. Voilà, ça c'est une supposition. En tout cas, ne nous étonnons pas si elle a eu un prénom perse, parce que c'était la coutume à l'époque. C'est ainsi que, vous le savez, dans le prophète Daniel, Daniel a été renommé Belshazzar et ses trois compagnons, Michaël, Anania et Azaria, furent appelés, pour ceux qui aiment le gospel, Shadrach, Meshach et Abednego. Vous connaissez la chanson ? Non, ok, bon, c'est pas grave. C'est un, je sais plus quel groupe de gospel américain chantait Shadrach, Meshach et Abednego. Bon, c'est pas grave. Deux qualités morales et spirituelles qui concernent Esther ressortent de ce texte, son humilité et sa simplicité. Son humilité. Elle ressort de façon évidente par son obéissance aux conseils qui sont prodigués par son cousin. Versets 6, 10 et 20, nous découvrons cette obéissance d'Esther. L'auteur rajoute qu'Esther exécutait les ordres de Mardochée comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. Et mes amis, ne nous leurrons pas, plus d'une femme appelée à devenir reine de l'Empire, arrivée à cette position, aurait fait certainement preuve d'arrogance et de suffisance en prenant une distance avec ceux qu'elle fréquentait autrefois. Telle ne fut pas la réaction d'Esther. Plutôt que de s'enorgueillir de la place à laquelle elle était appelée, elle resta petite à ses propres yeux, et se tint éloignée de cet orgueil habituel, ordinaire, on va dire, de beaucoup de grands qui dédaignent, dès lors qu'ils sont en place, se soumettre à la lumière, parfois au conseil sage, de ceux qui sont plus petits. À titre d'illustration, je me rappelle avoir travaillé avec quelqu'un qui devint directeur et d'un domaine particulier qu'il ne connaissait pas. Et on avait l'impression que dès lors qu'il avait été nommé directeur, toute la science de sa nouvelle fonction était arrivée, comme ça lui avait été infusée depuis le ciel. Et il était inaccessible au conseil de ceux qui étaient là pourtant depuis bien longtemps et qui étaient sous sa responsabilité. C'est ce qui aurait pu arriver à Esther. Cela ne fut pas le cas. Au contraire, elle ressent plus que jamais sa faiblesse et son besoin des conseils avisés, sage et pieux de son cousin. Elle a besoin de cet homme que Dieu a placé à côté d'elle et qui l'aime, qui prend soin d'elle, qui la protège, qui la garde. Alors mesdames, puisque j'ai parlé aux hommes, c'est plus facile de le faire dans son église, quoique. Je dirais ceci, que cette attitude humble et soumise de la part de cette reine perse, cette impératrice, soit un encouragement à l'humilité à l'égard de ceux qui ont autorité sur vous, selon Dieu, et qui vous aiment. Ça ne signifie pas servilité. L'humilité biblique, c'est de ne pas s'estimer comme étant supérieur à ce que l'on est réellement. C'est-à-dire avoir une juste appréciation de soi-même, ni trop haute, ni trop basse. Mais surtout le rejet de cette tendance qui ruine la société actuelle, occidentale, c'est ce féminisme agressif qui veut renverser toutes les distinctions et les rôles que Dieu a établis entre hommes et femmes et qui peuvent se vivre dans cette complémentarité et belle et qui permettent à l'un comme à l'autre de pouvoir mettre à l'égard de l'autre, et surtout à la gloire de Dieu, ses dons. On se soutient mutuellement. Cette humilité, mesdames, est cette humilité à chacun de nous. Que Dieu nous accorde à tous de savoir. Alors cela lui fut imposé à Esther, et par la grâce de Dieu, elle sut le reconnaître. Mais que chacun de nous sache s'entourer de conseillers. Sache faire appel à des aînés, à des frères et sœurs mûrs dans la foi, à des piliers dans la prière, à des hommes et femmes bienveillants, fidèles, utiles par leurs conseils avisés, comme le fut Mardoché à l'égard d'Esther. Je m'étonne, aujourd'hui je peux le faire, j'ai passé 50 ans, avant peut-être moins, mais que combien beaucoup de chrétiens vivent leur vie chrétienne en solitaire. Orgueil, très certainement. Mes amis, l'Église est faite de toutes les générations. Et nos aînés sont comme des piliers, ces chaînes que nous découvrons dans nos forêts, au pied desquelles il fait bon s'abriter, trouver refuge. Sachons avoir, demander humblement les conseils, être suivis, cheminer avec. Et pour ceux qui sont un peu plus âgés dans la foi, qui ont un parcours déjà honorable derrière eux, eh bien, accompagnons, donnons ce temps avec cet amour qui caractérisait Mardoché, c'est-à-dire un don de soi, jusqu'au moment où Dieu nous appellera à lui. Ne soyons surtout pas comme Roboam, vous savez, le fils de Salomon, qui préféra prêter l'oreille aux conseils malheureusement mal avisés de jeunes sans discernement, et ce qui conduit, comme cela avait été dit, donc au drame de la scission du royaume. Humilité tout d'abord et simplicité. Où trouvons-nous cette simplicité d'Esther ? Bien, c'est qu'elle ne réclame rien pour elle. Rien de ce qui lui a été proposé par Hegai, le chef des eunuques et le gardien de la maison des femmes, verset 15, rien de tout cela n'est réclamé par Esther. Elle a à sa disposition tous les atours, les bijoux, les richesses dont elle a besoin pour séduire le roi, pour être la première. Ou même pour son propre plaisir, ou pour briller au milieu des autres femmes. À cet égard, je me permets cette petite histoire. Lorsqu'un homme et une femme rentrent dans une soirée, j'ai appris ça, c'est pas du tout biblique. Hein, alors, on peut enlever à l'enregistrement peut-être. Il paraît que lorsqu'un homme rentre dans une soirée, il regarde quelle est la plus jolie des femmes, et que fait une femme, elle regarde aussi quelle est la plus jolie des femmes, c'est-à-dire celle qui brillera plus qu'elle. Alors je sais pas, mesdames, si c'est vrai. Mais elle aurait pu faire cela. Rechercher à briller plus que les autres. Et pourtant, Esther ne s'appuie sur rien d'autre que le secours providentiel de Dieu dans la situation qui est la sienne. Ce Dieu qui s'occupe d'elle avec tant de fidélité depuis des années. Et elle se présente donc devant le roi dans la simplicité de sa personne, ne comptant sur rien d'autre que sur le secours divin. Elle sait pertinemment que son avenir est dans la surmain de ce Dieu qu'il aime. Et que s'il veut la voir sur le trône, elle y sera, quel que soit le plan des hommes. Qu'est-ce que nous comprenons ? Eh bien que sa confiance et son identité ne sont pas dépendants de ce qu'elle possède, de sa beauté, qui pourtant était très grande, et j'en dirai encore un mot tout à l'heure. Son identité, sa confiance se trouvent en Dieu, exclusivement en Dieu. Mes amis, que Dieu nous accorde cette simplicité, cette confiance en lui, cette certitude, quoi que ce soit parfois bien difficile, cette certitude que quoi qu'il nous arrive, il s'occupe de nous. Notre sécurité ne doit pas être dans nos titres, nos richesses, nos comptes en banque, notre intelligence, nos formations, ou tous les artifices que le monde dans lequel nous vivons veut faire briller, paraître, ou veut nous proposer pour paraître aux yeux des autres. Notre sécurité est en Dieu. Nous sommes en sécurité en Dieu par le simple fait d'être son enfant, d'être dans sa main, comme Jésus le dit en Jean 10, dans la main du Père et dans la main du Fils, main de laquelle ou desquelles personne ne pourra nous arracher. Personne. Permettez-moi de dire encore quelques mots avant de parler de la providence de Dieu. J'espère que vous allez, ça va, malgré la chaleur. Il fait bon chez vous, hein. S'il faisait moins 10 dehors, ça serait parfait. Quelques mots sur la préparation des femmes. Au verset 12 et 14, nous lisons qu'elles devaient passer un an dans la maison des femmes avant d'aller devant l'empereur. Certains suggèrent que la raison de cette longue période était de s'assurer de leur chasteté, c'est-à-dire qu'elles ne devaient pas être enceintes. Donc l'année était là pour ne pas imposer au roi une paternité qui n'était pas la sienne. Toutes les références faites aux cosmétiques, aux aromates, signifient qu'elles devaient faire des fumigations avec toutes sortes de parfums à des fins hygiéniques et thérapeutiques. Alors on leur enduisait la peau de différentes crèmes pendant une longue période pour rehausser l'éclat de leur peau, donc ôter les boutons, les imperfections, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas mon domaine, vous l'avez bien compris, vous l'imaginez. Mais quelqu'un a suggéré ceci, et c'est ce qui est important, c'est que cette longue préparation de ces jeunes femmes souligne la majesté du prince auquel on les destine. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie ceci, c'est que si pour plaire à un roi terrestre, ces femmes et leur entourage devaient travailler si longtemps pour acquérir une beauté passagère, à combien plus forte raison, et là je nous parle à nous en tant que chrétiens, nous, en tant qu'Église, c'est-à-dire en tant qu'épouse de Jésus-Christ, et là je ne parle pas à des individus, mais nous, en tant que corps, à combien plus forte raison devrions-nous nous employer à lui plaire en toute chose, c'est-à-dire à travailler à notre sainteté, bien sûr personnelle, mais on parle toujours de la sainteté personnelle. Elle est importante. La sanctification fait partie du salut, mais la sainteté en tant qu'Église, en tant que corps, au regard du monde. Paul écrit ceci à Timothée, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est ce que vous faites, nous vous prions et vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Que nos églises soient connues pour leur sainteté, c'est-à-dire d'être à part, différente, et dans ce sens, attirante. » Comme le fut Esther, ses femmes, et Esther en particulier. Que l'épouse de Christ, que nous sommes en tant qu'Église, soit attirante au regard du monde dans lequel nous nous trouvons. J'en viens, pour terminer, à l'œuvre providentielle de Dieu, et ce dernier point sera plus court que les précédents, mais pas le moins important. Je vous l'ai dit, la caractéristique première du livre d'Esther, ou principale de ce livre, c'est que nous y voyons le Seigneur agir providentiellement, mais en silence. Il conduit sagement, saintement, avec une toute puissance, toute chose, toute circonstance, pour que sa volonté s'accomplisse parfaitement. On pourrait dire, pour reprendre le langage de Paul en Romains 1, verset 9, par là, que les œuvres providentielles de Dieu se voient comme à l'œil nu, même si son nom n'est pas évoqué au cours de ce livre. Et c'est ce qui fait la richesse de cet ouvrage. Et j'aimerais voir avec vous deux aspects de cette providence de Dieu qui agissent dans deux domaines différents. D'abord, la grande beauté d'Esther, et ensuite la bienveillance dont font preuve ceux qui entourent Esther. Si Esther est belle, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est un acte providentiel de Dieu. Nous l'avons dit au début de cette prédication, à l'époque, seul comptait la beauté, la virginité pour le choix d'une épouse. Or, Esther avait, en termes de beauté, elle était certainement vierge, mais une beauté et un charme naturel. Joseph, l'historien, dit qu'elle surpassait toutes les femmes de l'époque par sa beauté. Mais la beauté d'Esther n'était pas le fait d'Esther. Elle n'avait pas décidé en naissant que finalement, je vais choisir le modèle parfaitement belle. Cela faisait partie de la bienveillance ou bienveillante providence de Dieu pour Esther. Dieu savait qu'à ce moment-là, au moment où elle serait appelée à devenir reine Il savait dans sa préscience que les critères qui prévaudraient au moment du choix de la nouvelle reine seraient ceux de la beauté de l'époque. Et c'est ainsi qu'il permit que Esther soit belle selon les critères de beauté de l'époque. La bienveillance à l'égard d'Esther. Par trois fois dans le texte, nous constatons la bienveillance de tous au palais. D'abord Hegai, le chef du harem, puis tous ceux de la maison des femmes, verset 15, donc verset 9 d'abord, verset 15. Le roi, verset 17, qui tombe réellement et profondément amoureux d'elle. Le mot hébreu qui est traduit par Emma signifie qu'il y a un lien émotionnel très fort entre Artaxerxès et Esther. Et c'est pourquoi il aime Esther plus que toutes les femmes. Alors, à qui Esther doit-elle cette faveur d'Egaï, ce traitement particulier, les conseils avertis de son cousin, la bienveillance de tous à la cour, et finalement l'amour du roi? Est-ce que c'est elle et uniquement elle, par tout ce qu'elle peut être en elle-même? Non, elle n'a aucune prise sur les événements, hormis ceux de se soumettre et de faire preuve de sagesse, de se soumettre à ce que lui dit son cousin, de faire preuve d'intelligence. Mais jamais Esther, dans sa situation, n'aurait pu proposer que le roi la choisisse comme nouvelle reine. Elle n'a pas de contrôle, je l'ai dit, sur sa beauté. Il est impossible pour elle de programmer sa candidature à la royauté. Dieu seul influe sur tout cela. Dieu et Dieu seul. Il contrôle... Il dirige toute chose selon son plan éternel, pour sa gloire, par amour pour elle. Et personne certainement d'autre qu'elle, et Mardoché à ce moment-là, ne voit la main de Dieu. Et mes amis, si Dieu agit ainsi, c'est parce qu'il veut sauver son peuple. Si Dieu conduit à ce que Esther soit particulièrement belle selon les critères de l'époque, à ce que Esther soit aimée de Hegai, de tout le monde, là où elle passe, et particulièrement du roi, c'est parce que Dieu veut sauver son peuple de la destruction. Et c'est parce que Dieu veut sauver ce peuple qui va donner naissance à Jésus-Christ. C'est parce que Dieu veut accomplir l'œuvre du salut en Jésus-Christ. Parce que le plan souverain de Dieu va bien au-delà de l'histoire d'Esther. Le plan souverain de Dieu, c'est la venue du Messie, de celui qui va sauver son peuple. Des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, de toute race, de tous les âges, de toute période, de toute condition. C'est pour cela. Ça va bien au-delà d'Esther, bien au-delà de Mardoché. Et cela doit nous interpeller, et cela m'interpelle dans mon égoïsme, parce que je pense souvent plus à moi-même qu'à Dieu et son plan. Mais ce que le plan de Dieu dans nos vies est bien plus large que notre petit bonheur de quelques dizaines d'années ici-bas. Et ces événements de la providence de Dieu nous rappellent un autre personnage de la Bible qui sut voir la main de Dieu dans les épisodes contraires ou positifs de sa vie. Il s'agit de Joseph, rappelez-vous. Joseph, vendu par ses frères, jeté injustement en prison pour par Potiphar, pour un acte qu'il n'aurait jamais commis, etc. Abandonné en prison, oublié en prison. Et Joseph qui dit à ses frères, après, au moment où il est ministre, vizir en Égypte, que le fait qu'il, au pluriel, l'ait vendu comme esclave, qu'il ait été jeté injustement en prison, oublié en prison, et puis qu'il soit devenu ensuite vizir d'Égypte, tout cela, dit-il, je le cite, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Pourquoi ? Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Joseph voyait l'œuvre providentielle de Dieu au cours d'une vie particulièrement difficile comme dépassant largement donc sa propre vie. Alors mes amis, que cela nous encourage aujourd'hui à admirer et à reconnaître la main du Seigneur, du Dieu providentiel dans toutes nos circonstances. Même celles qui semblent à première vue le fait du hasard et celles qui nous paraissent particulièrement injustes ou difficiles ou qui nous feraient parfois dire à Dieu « Jusque-là, ça allait bien, mais là, par contre, il semble que tu te sois trompé. » Avec le psalmiste, sachons regarder en arrière et repasser toutes les œuvres de Dieu dans notre vie, afin de nous encourager et de nous réjouir dans toutes nos circonstances, celles passées, celles présentes et celles futures, et de voir la fidélité et la fidélité de Dieu encore et encore. Notre vie est entre les surmains de Dieu. Vous le savez, il fait concourir toutes choses pour notre bien. Nous venons de voir ceci ce matin. Dans toute la simplicité qui est la leur, un homme et une femme selon Dieu qui brillent à sa gloire dans un contexte hostile, difficile pour ceux qui le craignent. L'amour, la fidélité, le courage, la bienveillance, l'humilité dont font preuve Esther et Mardochée nous démontrent qu'il n'y a aucun contexte assez difficile pour vivre à la gloire de Dieu. Pour être des lumières au sein des ténèbres. La providence de Dieu qui les accompagne nous révèle que celui qui nous a appelés à la gloire éternelle par l'œuvre de son Fils ne nous abandonnera jamais au sein de circonstances difficiles ou d'un contexte difficile. Alors ne nous décourageons pas aujourd'hui et ne trouvons surtout pas cette facile excuse, mais qui n'en est pas une, d'un monde qui est opposé à l'Évangile pour justifier notre difficulté à vivre à sa gloire, de vivre à sa gloire. Il est tellement simple, il est tellement facile, et nous le faisons peut-être tous, de dire « Ah mais c'est tellement compliqué, aujourd'hui c'est dur d'être chrétien ». Non, on doit justement faire la différence avec le reste du monde par une conduite sainte, et nous découvrons en Mardochée et en Esther un homme et une femme qui ont fait la différence simplement. Très simple. Il n'y a pas besoin d'être des super-héros. Les super-héros chrétiens sont ceux que l'on ne voit pas, mais sont ceux qui marchent fidèlement, simplement, selon ce que Dieu leur demande dans leurs circonstances. Merci pour votre attention. Je sais qu'il faisait chaud. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.